Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement, ce matin à l'épreuve des loups. Marc Vincent, on pourrait tout de suite démarrer sur le sujet de l'émission, les loups. Mais moi, je vous propose qu'on fasse une balade d'abord, une balade dans une terre qui, pour l'instant, est indemne de loups, dans un lieu qui est l'inverse de la montagne, c'est tout plat, à perte de vue, il n'y a pratiquement pas d'arbres. C'est la terre, non pas des loups, mais des agneaux, des brebis, des troupeaux, c'est l'Acro, la plaine de l'Acro, dans laquelle... Pratiquement à l'embouchure du Rhône, juste à côté de la Camargue, qu'on connaît beaucoup mieux. Depuis près de 5000 ans, il y a eu de l'élevage.
Oui, 5000 ans, c'est évident. Déjà, de par les fouilles qui ont été réalisées il n'y a pas si longtemps, puisqu'on a découvert des vestiges de bergerie qui montrent qu'il y avait à cette époque autant d'animaux qu'il y en a aujourd'hui, sinon plus. Donc on peut dire qu'effectivement l'Acro, c'est la terre de l'élevage du mouton extensif et pastoral, la terre du pastoralisme de France.
Pourtant, quand on traverse cette plaine, on a l'impression d'un quasi-désert, une végétation maigre, pas d'arbres. Qu'est-ce qu'il y a à manger là? Des cailloux?
Eh bien, entre les cailloux, il y a de l'herbe, une herbe très fine, qui est pâturée donc depuis si longtemps par les moutons que ça a créé un faciès très particulier qui nourrit non seulement les moutons, mais toute une biodiversité très particulière qui ne serait pas là s'il n'y avait pas les troupeaux. Et donc ces troupeaux-là, c'est ceux qu'on va retrouver en alpage ensuite, l'été, donc au contact des loups, bien sûr. Mais n'oublions pas que les loups, aujourd'hui, ils ne sont plus seulement dans les alpages, et ils sont aussi un peu partout dans les plaines aux alentours et un peu plus loin.
Et vous arrivez même à les faire déjà rentrer dans l'émission. Mais je vous ai dit, on reste d'abord du côté des moutons. Donc cette biodiversité dont vous parlez, qui a été amenée par l'élevage, qu'est-ce que c'est?
Des oiseaux rares, essentiellement. Et puis tout un cortège de reptiles, d'insectes, qui se développent là grâce au pâturage, parce que le milieu lui convient bien. Sans pâturage... Une autre diversité, probablement moins intéressante, si on en croit les écologues qui ont analysé tout ça et qui nous disent que vraiment, on est sur une zone très particulière et très intéressante pour sa biodiversité.
Mais tout de même pas un lieu où on peut se nourrir toute l'année, quand on est un troupeau. Donc, depuis déjà longtemps, c'est un système complexe qui associe et qui met en contact différents territoires.
Alors c'est exact, hein, le coussou pur, la croix sèche, n'est utilisé que quelques mois par an, mais autour se développe toute une zone de prairies dites naturelles aujourd'hui, parce qu'elles existent depuis fort longtemps, grâce à l'eau qui a été détournée de la Durance. Et donc les brebis se nourrissent de cette herbe-là à des moments cruciaux de leur existence, c'est-à-dire au moment de la reproduction et surtout de la naissance des agneaux. Et puis à une autre période, donc quand elles ont quitté ces prés et cette croix sèche, eh bien elles vont en transhumance dans les Alpes, où là elles vont mener tranquillement leur gestation pendant les 4 ou 5 mois d'alpage.
Mais j'aimerais que vous m'expliquiez mieux, Marc Vincent. Ça a été une sorte d'extension, c'est-à-dire qu'on avait commencé par faire de l'élevage du temps des Romains en gros, ou même avant dans la partie sèche, et puis on a eu l'idée d'aller trouver des parties plus arrosées, d'aller près de la Durance. Non, c'est pas ça du tout. En fait, c'est vraiment une évolution. C'est-à-dire que ce métier d'éleveur, de berger, qu'on imagine comme immuable, en fait, il a connu des évolutions incessantes au cours de l'histoire.
Oui, alors ça, c'est vrai. On peut dire que c'est une évolution constante du métier. Alors, on peut dire que l'accro donc, a commencé à évoluer au XVIIe siècle avec le coup de génie d'Adam de Craponne, qui a eu l'idée de détourner les eaux de la Durance, donc qui coule actuellement en direction d'Avignon, et de refaire passer ces eaux vers l'accro par l'intermédiaire de canaux d'arrosage, qui à l'époque ne servaient pas à l'arrosage, mais servaient en fait à faire tourner des moulins. On était dans une logique industrielle.
Du XVIe siècle. Hein.
Oui, voilà. Mais bon, c'était quand même de l'industrie. Hein, pour Adam de Craponne, avant tout, c'était gagner de l'argent en faisant tourner des moulins. Et puis on s'est aperçu que cette eau, elle pouvait servir à irriguer des terres qui sont devenues fertiles à force d'irrigation par l'apport de limon de la Durance.
Et oui, puisque la Durance, en fait, elle descend de la montagne.
Elle descend de la montagne en charriant ses limons et les canaux ont apporté ces limons vers l'accro. Et donc, ces limons se déposant, on finit par cacher les galets, qui avaient été retirés de façon assez grossière. Ces terres, devenues fertiles, ont pu être ensemencées en prairies, qui sont devenues des prairies naturelles au fil du temps, avec une flore extrêmement complexe et très stable, et qui permet de fabriquer un foin très particulier, qui est le foin de Croc, et qui est en fait la première appellation d'origine contrôlée à destination des animaux d'élevage. C'est une curiosité, mais c'est vraiment une marchandise rare, chère.
C'est l'équivalent du vin AOC, mais pour les brebis et les chevaux.
C'est un peu ça, oui. Et qui se vend d'ailleurs à des prix assez élevés à l'exportation. Et donc, voilà, grâce à ce système, on a trois coupes de foin sur ces prairies naturelles et une quatrième coupe que je mettrai entre guillemets, qui est ramassée par les brebis à l'automne. L'AOC dit qu'on a droit à faire trois coupes, mais pas plus. Donc la quatrième ne doit pas être ramassée, mais elle est récoltée par les moutons. Et comme elle est très riche, cette herbe, elle tombe très bien, puisqu'elle arrive au moment où les animaux ont un gros besoin, puisqu'ils descendent de la montagne à ce moment-là, on est en septembre. Elles sont en fin de gestation et en début de lactation, tout assez rapidement. Et elles se nourrissent sur ces prairies jusqu'à la mi-février. Donc une herbe très riche qui permet un élevage assez tranquille, avec l'assurance d'avoir une productivité d'année en année constante. Et puis en février, donc, on a une date assez fatidique, qu'on appelle la date de sortie des prés, qui est à peu près au 15 février. Et là, les animaux doivent sortir, quitter ces prairies, pour laisser pousser le foin, donc, qui arrivera en avril de l'année suivante. Et donc, ils doivent se sortir du milieu et donc aller retourner sur les parties sèches de l'accro, le coussou. Alors ça, c'est vrai pour une partie des troupeaux, à peu près 50 à 70 troupeaux qui vivent dans les environs. Mais les autres n'ont pas tous accès à ces coussous.
D'autant que les coussous se sont bien rétrécis depuis l'Antiquité dont nous parlions. En fait, cette plaine, elle a été complètement anthropisée. Elle a été consacrée à toutes sortes d'activités qui n'ont plus rien à voir avec l'élevage.
Oui, bien sûr. Alors là, par rapport à la surface originelle de l'accro, il reste une espèce de dentelle bretonne qui pourrait rappeler, ça pourrait rappeler ça. Mais ça, c'est du coussou classé maintenant, qu'on ne peut plus toucher, qui a été figé par différentes lois. C'est venu d'accord entre justement les écologues et l'élevage, donc la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, qui a signé un accord pour figer ce territoire et le consacrer uniquement à de l'élevage. Alors autour, vous disiez qu'effectivement, ça s'est anthropisé, mais il était temps qu'il y ait cet accord qui se fasse parce qu'on était effectivement en train d'être raboté par les différentes grandes villes qui sont au pourtour de l'accro. Hein. Je pense à Istres, Miramas, Salon, Saint-Martin-de-Croix, Arles. Alors ça continue un peu à gratter par-ci, par-là, mais maintenant, on a bien figé les choses, quoi, et donc tout le système Croc, maintenant, tient bien sur l'élevage et la production de foin.
Et cet élevage et cette production de foin, vous le disiez au début de cet entretien, Marc-Vincent, c'est la garantie d'une très grande et très belle biodiversité sur ces vestiges de plaine, de steppe en fait, puisque c'est une steppe, la dernière d'Europe, l'Acro. Cet élevage, il sert également, et l'irrigation sert également à maintenir en état la nappe phréatique qui alimente en fait toutes ces villes que vous venez de citer. Et d'autres encore.
Voilà, je voulais aller là-dessus aussi. Et là, on met en avant le rôle très important de l'agriculture. C'est le maintien justement en état de cette nappe phréatique qui, si on arrêtait la production de foin et donc l'irrigation des prairies par de grandes quantités d'eau, on assécherait cette nappe phréatique et du coup, les villes qui sont autour manqueraient cruellement d'eau. Donc on a vraiment un lien très fort entre la biodiversité, l'agriculture et les hommes qui vivent autour. Et ça, c'est très particulier à cette région. Donc on est vraiment sur un système qui roule depuis des décennies, des centaines d'années.
Et quelques milliers d'années même.
Pas quelques milliers d'années, parce que l'eau n'est pas arrivée depuis si longtemps que ça. Mais en tout cas, l'équilibre qui est aujourd'hui existant, il est très précaire et tient au fonctionnement de ces activités emboîtées les unes entre elles.
Mais oui, voilà, ce que vous avez souligné, Marc-Vincent, et je trouve que c'est ça qui est effectivement très intéressant, c'est cette intelligence des territoires, cette manière d'utiliser à bon escient des ressources considérées comme très maigres ou quasi invisibles. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on traverse aujourd'hui l'Acro, on n'imagine pas qu'il peut y avoir une utilisation aussi riche et aussi subtile, je dirais, puisqu'on passe des zones sèches aux zones irriguées, on arrive à tirer le meilleur parti, on tire une quatrième coupe d'un lieu où il y a déjà trois coupes de foin. Enfin, c'est extraordinairement bien organisé, bien agencé, subtil. Et c'est ce qui a permis aussi que cette activité d'élevage perdure, même lorsqu'il y a eu des difficultés économiques très importantes du secteur ovin.
Oui, alors ce secteur ovin, il est fragile, il est soumis aux importations, notamment de Nouvelle-Zélande. Hein. Il est fréquent de trouver de l'agneau pas cher dans les supermarchés. Et c'est souvent de l'agneau congelé qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Il arrive même maintenant avec des systèmes frais, quasiment frais, quoi. Et donc c'est vrai que là, il y a une concurrence très forte, mais on a aussi une typicité de nos productions qui est à mettre en avant et qui est mise en avant par les éleveurs. Et ça, je trouve que là, ils ont fait un beau travail parce que ces agneaux qui sont nourris de façon extensive, toujours dans la nature, quoi, toujours à l'extérieur, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Et c'est pas des animaux de bergerie. La bergerie, elle vient juste pour compenser quand on est en période froide, et notamment au moment des agnelages, ça peut aider, mais ce n'est pas là où on nourrit les animaux. Les animaux se nourrissent à l'extérieur toute l'année. Et là, on est sur un système très particulier, donc, où on produit forcément de la viande avec une qualité particulière et qui est recherchée pour ça. On est complètement en dehors des systèmes intensifs de bergerie avec ensilage et grains. Ça n'existe pas en gros.
On est aussi dans une race très caractéristique, c'est la Mérinos d'Arles, qui a un nom très célèbre, mais dont on ignore peut-être trop les caractéristiques, le fait qu'elle est extrêmement rustique. Vous voyez soupirer, là. Elle a été améliorée, comme on dit, j'ai mis des guillemets, j'espère qu'ils sont entendus.
Elle a été améliorée. Alors, elle a été améliorée, notamment sur son gabarit, par des infusions de sang de Mérinos précoce. Ça, c'était juste avant-guerre, jusqu'un peu après la dernière guerre. Mais bon, ça a amélioré bien la conformation de l'animal, mais sans plus, quoi. Ça n'a pas touché à sa rusticité. Et quand on met des béliers, donc de race à viande, sur ces brebis rustiques, on obtient un produit, un agneau, donc, qui est plutôt bien conformé et qui garde une certaine rusticité. Et donc, qui s'adapte bien ensuite, si on le conserve pour en faire une brebis, qui s'adaptera très bien à la montagne, quoi.
Oui, mais ce que vous ne me dites pas, là, Marc-Vincent, c'est qu'au départ, la Mérinos d'Arles, c'était surtout des troupeaux pour la laine. Et puis qu'un beau jour, on s'est retrouvé à ne plus du tout s'intéresser à la laine. Et il a fallu passer à la viande. avant cet épisode que vous avez décrit, des agneaux néo-zélandais, qui sont un vestige du Rainbow Warrior, d'ailleurs, puisque ça a été un accord qui a été passé entre la France et la Nouvelle-Zélande pour se faire pardonner l'explosion du bateau de Greenpeace.
Oui, alors la problématique de la laine, effectivement, c'était le produit phare, le produit numéro un issu de la mérinos d'Arles. Hein. Ça date donc de Daubenton et la volonté du roi donc d'améliorer les vêtements de ses militaires. Quoi. Donc, on a développé la production lainière. C'est Marie-Antoinette qui a développé la production lainière et qui a fait venir donc des mérinos d'Espagne pour cela. Et qui ont été croisés avec la race locale d'Arles, qui était une petite race rustique déjà, hein, qui parcourait la Croix. Et donc on a obtenu les mérinos d'Arles qu'on connaît aujourd'hui, donc, qui ont été encore améliorés ensuite par les précoces, mais une race lainière avant tout. Et une race lainière qui, comme je le disais, quand on la croise avec des animaux à viande, on fabrique de la viande.
Bon, j'arrête de vous embêter avec la Croix, parce que je sens que vous avez envie de transhumer. C'est vrai, c'est la saison qui veut ça. Vous avez envie de monter sur la montagne, nous parler des alpages à l'épreuve des loups. C'est le titre du livre que vous avez publié aux éditions Quae. Et peut-être quand même avant de parler du loup, nous parler de la transhumance. On a l'impression là qu'on touche à une image ancestrale. Et en fait, c'est peut-être pas si ancien que ça, la transhumance.
Alors la transhumance, ça existe quand même depuis pas mal de siècles. Sauf qu'on ne peut pas le prouver, on ne peut pas remonter si loin que ça, parce que dans les textes, ça n'apparaît pas. Mais on peut imaginer que les troupeaux qui étaient dans la Croix à l'époque romaine devaient forcément quitter la Croix à un moment donné, parce qu'elle était trop sèche. Donc elle ne pouvait pas nourrir tous les animaux qu'elle contenait dans ces fameuses bergeries qu'on a vues tout à l'heure. Donc on suppose que les animaux partaient plus ou moins loin. Alors après, dès qu'on a pu prouver que la transhumance vers les Alpes existe...
C'est-à-dire vers le XIVe siècle?
Oui, c'est à peu près ça, oui. Donc ils partaient à pied, quoi. Ils quittaient la région à pied et c'était une organisation quasi militaire. Les troupeaux se regroupaient pour former une énorme troupe qui était conduite par souvent des professionnels hein, de la chose et qui distribuait ensuite ces troupeaux au fur et à mesure de la route quand on atteignait les alpages.
Ça mettait combien de temps pour aller de la Croix jusqu'au Queyras, par exemple, qui est la région, la seconde région que vous avez choisi d'étudier?
Donc là, pour le Queyras, il faut compter 3 semaines. Aujourd'hui, il faut bien imaginer que ça serait quasiment infaisable, quoi. Ou alors, il faudrait fermer les routes à un moment donné, quoi, pour laisser passer les animaux. Parce que les chemins de transhumance qu'on appelait les drails, pas entièrement disparu, mais quand même, ont été recouverts bien souvent par des routes. Ou cultiver. En fait, la transhumance à pied, ça, c'est pas si ancien que ça. Hein. Ça s'est arrêté définitivement dans les années 50, donc après-guerre. Et ça avait déjà un petit peu ralenti avec l'arrivée du chemin de fer au début du siècle. Il y a eu un petit moment là, de transhumance en train qui n'était pas très pratique et qui a été assez vite abandonné. Et suppléé ensuite par les transhumances en camion, les premières transhumances en camion, voilà, ça date d'un peu avant la guerre, quoi. Et ça s'est développé après. À part quelques troupeaux qui sont à proximité de leurs alpages, quasiment tous les troupeaux sont transportés en camion.
Donc là, ça dure une demi-journée.
On charge le matin et on déballe en fin de journée, ou on charge le soir et on déballe le lendemain matin, quoi. C'est vraiment très court, quoi. C'est quelques heures de transport. Ce qui peut poser problème, d'ailleurs, s'il y a des petits problèmes météo, s'il fait froid au moment du débarquement, des animaux qui arrivent de régions chaudes et qui sont peut-être un peu affaiblis à la fin du printemps sur des coussous qui étaient très secs, peuvent avoir à souffrir de ce changement de climat et de lieu brutal. Alors que les vieux bergers vous racontent que la transhumance à pied permettait d'acclimater les animaux tout au long du parcours. Je suppose qu'il y avait aussi d'autres difficultés qui ont été oubliées, mais qui... Ça devait quand même présenter quelques soucis.
Mais c'est vrai que ça reste tout de même comme une image assez magique.
Mais ça reste un mythe en Provence. Hein. La transhumance à pied, elle est reconstituée chaque année dans plein de fêtes de villages. Ça reste un mythe un peu au niveau de la crèche des Santons de Provence. Quoi. Voilà, ça reste un peu cette image-là. La transhumance qui existe aujourd'hui, elle, elle est par contre très réelle. Et c'est une réalité même moderne. Je veux dire, c'est le berger qui garde son troupeau à l'alpage. C'est un technicien qui a été formé dans une école, qui connaît son alpage par cœur, qui sait appliquer des méthodes de travail et conduire son troupeau à travers l'alpage pendant les 3 mois qu'il va rester là-haut. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué, très technique. On dit aussi que ce sont les vacances du troupeau, mais c'est sûrement parfois très dur.
C'est pas les vacances du berger.
C'est pas les vacances du berger. C'est plus les vacances des brebis. En tout cas, ça l'était jusqu'au retour du loup. Ça reste les vacances des brebis parce qu'elles vont devoir reprendre de l'état corporel à cette occasion. J'ai dit tout à l'heure qu'elles sortaient donc de la croix, qui était un peu sèche. On est en juin. Il n'y a plus grand-chose à manger sur ces steppes. Là, elles se trouvent sur des zones où l'herbe est très riche et très appétante, avec un climat très favorable. Du coup, elles sont en plus en fort besoin, puisqu'elles sont en début de gestation. Donc elles vont reprendre de l'état et se refaire une santé, en quelque sorte. Ça va durer tout l'été, avec une organisation voilà, qui va se mettre en place par le berger, et un cheminement du bas de l'alpage jusque vers le haut de l'alpage, donc dans le courant de juillet et août. Et vers la mi-août, on sera tout au sommet, par exemple, de l'alpage.
Marc-Vincent, j'ai remarqué que vous avez parlé de la transhumance à pied en décrivant ces immenses troupeaux assemblés au fil de la route et avec les bergers. Et puis maintenant, vous parlez du berger.
Et oui, alors au fil du temps, malheureusement, c'est que économiquement, il n'était plus possible de payer des bergers. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un seul berger à l'alpage. Et ça va être le berger unique, bien souvent, qui va faire l'alpage d'un bout à l'autre, depuis la montée jusqu'à la descente.
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils étaient vraiment plusieurs sur chaque alpage.
Oui, on peut l'imaginer, ne serait-ce qu'en regardant les cabanes d'alpage, qui sont de véritables chalets par endroits, où on pouvait loger à plusieurs. Quoi. Et là, on avait des troupes de bergers, avec un chef berger qu'on appelait le Bail, et une organisation donc, autour de cet homme, une division des troupeaux, donc en petits groupes, avec les animaux à besoins différents, les agnels, par exemple, qui étaient mis de côté, ou les béliers qui étaient gardés à part. Donc ça nécessitait du personnel. Ce personnel, il n'existe plus. Il y a quand même eu une fonte de... malheureusement, du personnel dans les troupeaux. Bien souvent, c'est l'éleveur qui garde. Donc là, on dit que c'est l'éleveur berger.
Parce qu'il n'a plus les moyens de louer les services d'un berger.
Voilà, parce que son troupeau est trop petit pour pouvoir se payer un berger. Ou alors, il va s'organiser pour prendre d'autres troupeaux, pour en avoir un plus gros, du coup, prendre un alpage plus grand, et du coup, se faire rémunérer par les autres éleveurs. Il va devenir un peu l'entrepreneur de transhumance, en quelque sorte. Ou alors, s'il a un gros troupeau, c'est-à-dire plus de 1000 brebis, il pourra se payer un salarié pour la transhumance. Et donc, il y a une école à Salon de Provence qui s'appelle l'école du Merle, qui est connue comme étant l'école de berger, qui forme donc des jeunes gens, plus ou moins jeunes d'ailleurs, pour garder les troupeaux à l'alpage l'été. Et c'est leur seule mission.
Ça, c'est relativement nouveau, Marc-Vincent, parce que les bergers, on a plutôt le sentiment que ça a toujours été un peu des marginaux, des gens qui vivaient au bout du village et qui n'avaient pas grand-chose ou qui ne savaient pas faire grand-chose.
Ça a probablement existé, ça, oui, ça, je nie pas ça. À l'école de bergers, on voit passer différentes personnes... issus de différents milieux. Alors, il peut y avoir encore quelques marginaux, ça, je ne dis pas le contraire. Mais la plupart de ces personnes ont une scolarité à peu près normale. Et bien souvent, c'est plus une reconversion qui est décidée dans une carrière pour passer à autre chose. Voilà, c'est un moment de la vie. Bon, ce sont des personnes qui ont peut-être eu des problèmes et qui choisissent ce métier pour sa tranquillité, cet aspect un peu voilà, de contact avec la nature et les animaux qui est quand même très particulier. Qui n'est pas un métier facile, hein, c'est un métier de solitaire quand même, même si on trouve de plus en plus de couples. C'est un métier aussi qui s'est féminisé, et à peu près pas loin de la moitié des élèves bergers de ces dernières années qui sont des filles. Donc ça, c'est assez nouveau, par contre. Et je dois dire que ces jeunes femmes sont très appréciées par les éleveurs.
Mais peut-être qu'il faut souligner davantage le fait que c'est une solitude choisie et que c'est un métier qui est un métier vraiment choisi. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait par pis-aller, mais les bergers sont des gens qui aiment énormément leur travail, qui aiment leur troupeau.
Alors ça, c'est certain. Pour faire ce travail, il faut aimer les bêtes et être particulièrement attaché aux brebis et savoir s'en occuper. Donc ça, c'est pas donné à tous. Il peut y avoir un lien fort aux animaux, mais pas forcément une compréhension du troupeau et de sa marche au fil du temps dans un alpage. C'est assez complexe. Ça s'apprend aussi sur le tas. Hein. Mais c'est difficile à enseigner. Ça s'enseigne un peu. Mais il y a une passion derrière, effectivement, chez ces gens-là, qui les conduit à s'attacher au troupeau et à l'alpage aussi, parce qu'on revoit souvent les mêmes personnes sur les mêmes alpages. Alors, chez ceux qui ont déjà acquis une certaine expérience. Voilà, les jeunes aiment bien changer pour avoir différentes expériences, mais au bout de quelques années, ils s'attachent à soit un éleveur, soit un alpage, quoi. Mais voilà, il y a une espèce de science de l'alpage qui se crée au fil des ans et une connaissance fine de l'endroit où on doit faire manger les bêtes. Et ça, c'est difficile à expliquer comme ça, mais les bergers travaillent sur des circuits de pâturage. Et c'est pas au hasard, c'est pas toujours les animaux qui choisissent le bon sens, quoi. C'est le berger qui va les guider. Enfin, le berger est là pour ça, hein. Il est là pour guider les animaux dans la montagne et les envoyer vers le bon endroit au bon moment, quoi. Et donc c'est vraiment un métier d'observation et une observation très fine des animaux et de l'alpage et du temps qui passe, quoi, et de la météo et toutes ces choses-là, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a un lien très fort qui se crée au sein de l'alpage entre les, voilà, entre tous ces éléments, quoi. Et je pense que là on a une forte remise en question de tout ça avec la prédation.
Ce qui est étonnant, c'est que ce métier qui était si décrié, alors je vous l'ai dit tout à l'heure sous forme de pique, mais vous avez désamorcé ma pique. Quand je vous ai parlé des bergers quasi simples d'esprit, c'est vrai que c'est une image et que c'est un métier qui a été longtemps dévalorisé. Mais en fait, il a connu, d'une part, un regain d'intérêt. On ne l'a pas dit, mais la vague néo-rurale a été l'époque d'un très fort regain d'intérêt. Il y a eu énormément de jeunes qui sont venus s'installer pour devenir berger dans les années 70-80. Et puis, autour des années 90, le rôle de l'élevage a été largement reconnu. Marc-Vincent, vous en parlez longuement dans votre livre. Largement reconnu comme, justement, très intéressant pour entretenir, pour améliorer la biodiversité, les paysages, les territoires.
Oui, alors c'est là qu'effectivement, moi je ne parle plus de marginaux, hein, on est vraiment dans un rôle social très fort de l'élevage. On pourrait commencer tout simplement par les limites de l'Acro. Sur les marges de l'Acro, vous avez des collines, les Alpilles, la petite montagne qui va de la Durance jusqu'au Rhône à peu près, quoi. Cette petite montagne, elle a tendance à s'embroussailler et à prendre feu. Et donc, grâce au retour des moutons qui ont été réclamés par les habitants des villages qui étaient soumis à des incendies, on a retrouvé une vie dans ces collines qui avait disparu à cause de lois de protection des forêts. C'était de la fausse protection, puisqu'en fait, on était resté sur des images de destruction de forêts par des grands troupeaux de chèvres gardés par des enfants, enfin voilà, des choses d'un autre siècle, quoi. Et c'est resté longtemps figé sur ces lois de protection, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était complètement idiot, quoi, de se priver de ces animaux pour aider à la protection des forêts contre les incendies. Et tout en luttant donc contre les incendies, c'est-à-dire en réouvrant le milieu et en le fractionnant pour qu'il soit moins inflammable, on s'est aperçu qu'on pouvait nourrir des troupeaux entiers et longtemps et de très bonne façon, car il y a une finesse chez les animaux à choisir leur alimentation dans ces milieux qui paraissent pourtant inhospitalier au possible, quoi. Quand vous suivez une brebis toute la journée, vous vous apercevez de la variété de ce qu'elle arrive à consommer, quoi. C'est impressionnant. Ça va du chêne kermesse, qui ressemble plutôt à du barbelé, jusqu'à des herbes très fines qu'on trouve au pied des arbustes, quoi. En passant par des feuillages beaucoup plus souples, quoi. Mais c'est un véritable menu que la brebis se compose tout au long de la journée. Et donc, à la fin d'un séjour en colline, on s'aperçoit que les animaux ont profité de ce séjour, ont repris de l'état, et que la colline, elle aussi, a changé et s'est réouverte. Elle est plus accueillante aux yeux des hommes, mais aussi plus accueillante pour une biodiversité remarquable, quoi. On parlait beaucoup de la croix et du coussou, qui a toujours été entretenu par le pâturage. Mais là où le pâturage avait disparu par la volonté des hommes, on s'aperçoit que quand il revient, on a une évolution remarquable en quelques années. Et donc le rôle de ces troupeaux a été encouragé maintenant, alors qu'il avait été repoussé par l'État, et il est encouragé aujourd'hui par des primes qui s'appellent des primes agri-environnementales, qui nous viennent de lois européennes, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant, à la fois pour les bergers qui trouvent ici à bon compte une herbe intéressante, et pour la communauté qui profite de ce pâturage pour protéger son territoire contre l'incendie.
Marc Vincent, les troupeaux, l'activité d'élevage, on l'a vu, ça fait du bien à la steppe, ça fait du bien aux prairies naturelles, ça fait du bien aux collines embroussaillées, ça fait du bien aussi aux montagnes où la déprise agricole fait que ce qui était autrefois cultivé, mis en terrasse, est retourné en broussaille, mais grâce à l'alpage, grâce au fait que les troupeaux sont là l'été, il y a tout de même une régénération de la flore et il y a une sorte d'équilibre de la flore qui se fait. Tout ça, ça a été reconnu, vous le disiez, par ces mesures agri-environnementales qui datent très exactement de 1992. 1992, c'est l'année de la réapparition du loup. Et j'ai tort de dire réapparition, puisque à peine apparu, il a été escamoté.
Oui, si vous voulez, il a été escamoté par l'État qui s'est empressé de ne rien dire, en fait. C'est ça que vous pensez. 92, donc, c'est l'apparition officielle des loups en France. On ne peut pas parler de réapparition. Un peu d'histoire. Les loups en France ont disparu, effectivement, au tout début du XXe siècle, par la volonté de l'État. Donc là, il y avait vraiment des lois françaises pour éradiquer cet animal, une volonté très forte, basé sur notamment des primes distribuées à qui a mené la preuve qu'il avait tué un loup.
Des primes qui ont pu connaître une inflation tout à fait saisissante, voilà. Puisqu'on est passé pour une louve de 30 francs à 150 francs, je crois.
Des primes qui étaient bien supérieures au salaire de l'époque. Donc, ils ont encouragé toute personne capable de faire ça, de participer à cette éradication. Cette politique a très bien marché, puisque le loup a disparu de France par la volonté de l'État, donc.
Et en 1937.
Oui, officiellement, c'est 37. Bon, on peut dire que déjà, au début du siècle, c'était fini, quoi, parce qu'il restait quelques loups erratiques par-ci, par-là. Il n'y avait plus vraiment de meutes. C'était... Alors qu'au 19e siècle, il y avait tellement de loups que c'était incontable, quoi. Personne n'est capable de dire combien il y avait de loups. Hein. Peut-être des chiffres avancés, mais... La seule chose qu'on peut dire, c'est le comptage des loups morts, en fait, qui montre qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et puis des loups quand même, il faut dire, qui étaient devenus dangereux pour certains. Donc là, moi, je veux vous renvoyer aux écrits de l'historien Jean-Marc Morisseau, qui a décrit ça très bien, et notamment sur les loups dangereux pour l'homme, hein, puisque un de ses livres parle de ça, sur des loups qui étaient devenus anthropophages. Et donc la volonté de l'État, elle est compréhensible aussi à ce niveau-là, quoi. C'est que ces animaux étaient devenus vraiment malfaisants, c'était des nuisibles, quoi. Donc en plus, avec la rage par-dessus le marché qui touchait quand même pas mal de loups, on peut comprendre cette politique de l'époque. Revenons à notre loup d'aujourd'hui. C'est pas une réapparition, hein. C'est un loup qui revient d'un autre pays. Bon, alors il revient d'Italie. Ça, c'est ce qui est admis depuis longtemps, hein, depuis le début. Ça a été prouvé de façon génétique. Hein. Tous les loups qui sont apparus en France, on la trace génétique du loup italien. Donc ça ne fait plus de doute, sauf peut-être encore chez quelques-uns qui s'imaginent qu'il y a eu un complot derrière tout ça.
On a parlé de réintroduction.
Oui, c'est difficile de désamorcer cette histoire-là. Mais bon, je pense que de toute façon, même s'il y avait eu réintroduction, ça n'aurait pas marché. Et puis, aujourd'hui, bon, les loups sont en France, ils sont bien installés. Je crois que là, on est sur des combats d'arrière-garde. Ça servirait plus à grand-chose d'essayer de prouver qu'ils ont été réintroduits ou bien qu'ils sont venus naturellement, peu importe. Moi, je plaide plutôt pour son retour naturel parce que si vous regardez un peu la biologie du loup, c'est une chose tout à fait normale, quoi. Les loups étaient protégés en Italie depuis la fin de la guerre. Il y avait une petite population qui était résiduelle dans le centre de l'Italie, qui s'est développée tout simplement par sa biologie, hein, qui nécessite d'être en recherche de territoires nouveaux, vierges d'autres loups. Et du coup, ben, petit à petit, les loups avancent, quoi. Et ils se sont avancés vers le Piémont. Et puis après le Piémont, c'est la frontière française, hein. Et bon, mais il se trouve qu'ils sont passés du côté du parc national du Mercantour, un endroit giboyeux et relativement tranquille. Et voilà, c'est là qu'ils ont été observés pour la première fois, officiellement. Il y avait bien eu quelques observations plus tôt que ça, dans les années 70, 80. Voilà, il s'est avéré que ces loups qui avaient été observés aussi tôt étaient aussi des loups d'origine italienne.
Oui, mais Marc-Vincent, là, vous en parlez comme d'une sorte de chose tout à fait naturelle sur laquelle il serait presque ennuyeux de continuer à discuter. Mais tout de même, vous parlez d'une espèce protégée, même très protégée, puisqu'en voie de disparition. C'est en tout cas ce que dit la Convention de Berne, qui protège strictement les loups. Et cette petite population résiduelle italienne, ben, c'était presque une chance, peut-être, qu'elle ait subsisté jusque-là, non ?
Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, hein. Bon, le loup fait partie de la biodiversité. Il a subsisté en Italie. Il a été protégé relativement tôt par ce pays, ainsi que des ours, d'ailleurs. Il n'y a pas que des loups en Italie. Et voilà, c'est un fait, quoi. Alors on ne peut pas parler non plus d'animal en voie de disparition, hein. Le loup a des populations mondiales énormes, quoi, hein. On a des réservoirs immenses au Canada, en Sibérie. Voilà, c'est... On ne peut pas parler d'une espèce en danger. Alors elle était effectivement en voie de disparition en France, même pire que ça, puisqu'elle n'existait plus. Donc je pense que les écologues, enfin les spécialistes du loup, devaient savoir qu'à terme, les loups passeraient la frontière et arriveraient en France, aussi bien qu'en Suisse, puisque c'est ce qu'ils ont fait, hein. Donc aujourd'hui, c'est un problème transfrontalier et qui concerne aussi, je pense, l'Allemagne et peut-être encore d'autres pays du côté de la Slovénie. C'est un problème qu'il faudrait traiter de façon européenne, quoi. C'est pas le problème de la France ou de la Suisse ou de l'Italie, mais vraiment, je pense qu'on est sur un problème plus large qui a été mal perçu au départ. Effectivement, on a réservé un accueil trop favorable à ces animaux. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Alors ils sont arrivés armés quand même de conventions et de lois européennes de protection qui fait qu'ils se sont retrouvés sur une liste rouge d'espèces en voie de disparition à protéger en priorité. Et ça, à mon avis, ça a rendu service à personne, y compris au loup lui-même. Alors je m'explique, c'est que le loup, en général, si on le laisse faire, c'est un animal opportuniste et il va... chasser au plus facile. Et le plus facile, évidemment, c'est les animaux d'élevage. Donc à partir de là, il devient une gêne, voire pire, quoi, un fléau. C'est ce qui s'est passé quand même avec l'ancien loup. Hein, si je me permettais de revenir à ça, hein, le fléau de l'ancien loup, c'était pas non seulement qu'il s'attaquait aux hommes, qu'il avait la rage, et en plus, il s'attaquait aux entreprises humaines, quoi. Morisseau décrit ça très bien, quoi. C'était, par exemple, le transport de minerais dans le centre de la France. Et les minerais, à cette époque-là, étaient transportés à dos d'âne. Et bien, les colonnes d'âne étaient attaquées par des loups. Donc, voilà, c'était vraiment mise en péril d'une activité industrielle de l'époque. Et donc, on ne pouvait pas laisser faire ça. Et donc, aujourd'hui, les nouveaux loups reviennent, finalement, avec les mêmes mauvaises habitudes qu'on leur a laissé prendre, quoi. À partir du moment où ils ont passé la frontière, même déjà en Italie, je suppose... Ils chassaient les animaux domestiques, alors qu'ils ont à leur portée des animaux sauvages à profusion, des herbivores en grande quantité. Et si on en croit l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, on croule quasiment sous les chevreuils, les chamois, les cerfs et les sangliers. Et tout ça, c'est une nourriture potentielle pour une population de loups sauvages qui se nourrirait de faune sauvage. Ce qui est pour moi la bonne définition du loup. Et c'est la définition que les Américains ont reprise pour sauvegarder des grands espaces qui étaient justement soumis à une trop grande pression d'herbivores sauvages en trop grande quantité, quoi. Et c'est pour ça qu'ils en sont venus à réintroduire des loups pour rééquilibrer ces populations de faune sauvage. Alors on pourrait imaginer qu'on serait capable de faire la même chose en Europe. Sauf qu'on n'a pas tout à fait les mêmes étendues, le même territoire. C'est extrêmement anthropisé chez nous, c'est-à-dire qu'il y a peu de territoires qui ne sont pas soumis quelque part à la pression humaine, quoi. Donc ça devient compliqué de placer des loups dans le jeu, quoi, hein, si vous voulez, avec les animaux domestiques au milieu, quoi.
Mais surtout, ce qui s'est passé ici, c'est que, paradoxalement, alors qu'on a longuement décrit, et c'était mon souhait, Marc-Vincent, le travail très fin, très intelligent des bergers, de l'élevage, des éleveurs, des troupeaux sur tous les territoires sur lesquels ils vivent, et ce travail très fin qui était enfin reconnu depuis 1992, mais curieusement, dès l'apparition du loup, l'éleveur, le berger, le troupeau sont devenus des gêneurs.
Oui, c'est exactement ça qui s'est passé, hein. Il y a eu une espèce de stigmatisation de l'élevage, au point que certains amis des loups ont prononcé des phrases un peu malheureuses, du genre « on n'a plus besoin de vous, adaptez-vous ou disparaissez ». Enfin voilà, des choses très fortes, quoi, très violentes, auxquelles ont été soumis des gens extrêmement sensibles dans leur travail, quoi, hein, et qui se sont retrouvés confrontés de façon violente à ce prédateur protégé, donc surprotégé, non seulement par les lois, mais par des personnes qui se sont imaginées qu'en fait, le loup était là avant les hommes et qu'il était plus à sa place que les humains avec leurs élevages, quoi. C'est faire fi quand même de tout le passé et en même temps de l'utilité prouvée relativement récemment par les lois agri-environnementales, quoi. Et là, je trouve qu'il y a un gros dommage, quoi, qui a été fait à cette profession. Et du coup, je me demande comment on peut la réparer aujourd'hui, quoi. Parce que le loup reste un animal protégé, même s'il n'est plus considéré depuis 2009 comme un animal en voie de disparition. Mais il est quand même intégralement protégé.
Il n'est pas seulement protégé, Marc-Vincent. Il est aussi fétichisé, me semble-t-il. C'est-à-dire il a un rôle emblématique extrêmement fort. Alors, je réfléchissais en venant, d'une part, à ça, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais voilà, juste, je vous propose ça comme angle de réflexion. Toute la littérature enfantine présente toujours le loup comme une espèce de gros pataud maladroit qui finalement se fait toujours avoir et pourtant il est bien sympathique. Il est toujours plus faible que tous les petits chaperons rouges de la terre, que tous les troupeaux de moutons, que tous les opposants, les assaillants qu'on peut lui opposer. Et puis, il y a le loup comme, on va dire, marque touristique intéressante.
Oui, ça a été mis en avant, ça aussi, par certains défenseurs du loup. Ça a été même jusqu'à dire qu'on pourrait vendre des agneaux des alpages du loup, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Enfin, je pense que ça n'a pas été suivi, de toute façon, ça n'a pas été repris par les éleveurs. Il y avait eu une tentative du côté des Pyrénées avec l'ours. On a essayé de vendre du fromage de l'ours avec la pâte de l'ours sur la croûte du fromage. Enfin, des choses assez extraordinaires qui avaient peu de chances de réussir chez nos éleveurs, quoi. Ça, c'est quelque chose qui passera de toute façon pas. Même si, en Italie, on trouve effectivement une économie du loup avec en arrière-plan le pastoralisme adapté. On n'est pas dans les mêmes productions.
Oui, mais alors justement, tout de même, si vous citez l'Italie et de fait, souhaiter l'éradication du loup, ce n'est pas ni ce que vous dites, ni ce qu'il faut souhaiter, mais on pourra vous faire remarquer, on le fait d'ailleurs souvent, que dans d'autres pays, l'Italie, justement, l'Espagne, il y a beaucoup plus de loups et ça se passe très bien.
Alors, je vous arrête tout de suite, ça ne se passe pas très bien. Partout où il y a des loups, il y a des problèmes, quel que soit le pays, avec les éleveurs en général. En Italie, déjà, on ne peut pas tellement comparer nos productions avec les productions italiennes. Je vous disais là que donc en Italie, on a développé un accès touristique autour du loup, notamment dans le parc des Abruzzes. Et là, effectivement, il y a quelques bergers qui sont là et qui fabriquent du fromage pour la vente, notamment dans ces espèces de supermarchés des prédateurs, puisque là, les touristes, les millions de touristes qui passent par là peuvent voir des prédateurs en liberté, donc loup, ours, lynx. Et cette région s'est développée autour de ça, apparemment. Ça fonctionne. Mais si vous allez dans le Piémont, donc, qui est la province voisine de la France, où vous avez une production plus proche de la nôtre, donc de l'agneau à viande, hein, sur des troupeaux transhumants productrices de viande, vous avez les mêmes problèmes. Vous retrouvez exactement les mêmes problèmes qu'en France. Les éleveurs du Piémont se plaignent de la même façon. On n'est plus du tout sur les systèmes ovins-lait des Abruzzes, avec un personnel plutôt important, et notamment des ouvriers mal payés venus d'Albanie ou de pays de l'Europe de l'Est, qui ressemblent un peu à des esclaves, finalement. Donc moi, ces systèmes-là, je ne peux pas les encourager, quoi. Alors on parlait aussi de l'Espagne, où là, on a un cas peut-être un peu plus intéressant qu'en Italie, où effectivement, il y a une population de loups encore plus importante qu'en Italie, et qui est située sur le nord-ouest de l'Espagne, à cheval sur le Portugal. Donc le Pays basque espagnol, assez lointain. Et là, les loups, qui sont environ 2000, sont maintenus par les bergers ou par les gens qui sont chargés de les maintenir dans une zone immense, hein, mais qui est délimitée par un fleuve. Et donc quand les loups passent ce fleuve, ils sont dézingués. Voilà, donc on ne parle plus de cela. On ne les laisse pas partir. Donc il y a quand même une gestion, au moins territoriale, des animaux, des prédateurs, qui est faite par les Espagnols. Et ça, c'est officiel parce que ça a été inscrit dans la Convention de Berne par l'Espagne, qui avait des loups au moment de signer la Convention et qui a émis des réserves à ce sujet. Ce qui n'a pas été fait par la France, qui n'avait pas de loups au moment de la signature, et non plus par l'Italie, qui apparemment se débrouillait bien avec ses loups tant qu'ils étaient dans les Abruzzes. Voilà, donc l'expérience espagnole, je la trouve intéressante parce qu'en fait, ce qui est évoqué sur cette histoire de loups, c'est quand même que les loups, ils sont à leur place, mais ils doivent y rester. Et le paysage espagnol du parc national d'Europa, dont je parle en ce moment, il est aussi bien pour les bergers que pour les écologues du coin. Il est fabriqué par le pastoralisme et il comporte dans sa biodiversité tous les charognards qui tournent autour des troupeaux et qui se nourrissent des pertes de brebis. Donc ça, c'est le paysage espagnol du pastoralisme. Le loup, là-dedans, n'apparaît pas. Il y est, mais ce n'est pas lui qui a façonné ce paysage. C'est vraiment les bergers. On peut retrouver ça en France, un petit peu sur la région des Causses, où on a une production laitière semblable à la production espagnole. Hein. En France, c'est le Roquefort. En Espagne, c'est un autre fromage. Mais on est sur des productions laitières. Et les Causses, donc l'Arzac, Causses Méjean et Causses Noires, par exemple, revendiquent, dans le cadre du parc national des Cévennes, le rôle très important du pastoralisme dans la création des paysages qu'on peut admirer dans ce coin.
Mais comment est-ce qu'on pourrait transposer ça sur le Queyras ou dans les Alpes, où il ne s'agit pas d'élevage laitier, mais d'élevage à viande? Ouais. Des troupeaux bien plus importants, beaucoup moins de personnel. Alors les mesures de l'État, on va les citer rapidement, puisque là on arrive à la fin de l'émission, mais ce sont des mesures de défense passive en quelque sorte, c'est-à-dire il faut mettre les moutons dans des enclos toutes les nuits, ce qui, dites-vous, est vraiment pas très bon pour ni pour l'herbe, ni pour les eaux qui viennent par en dessous. Il faut avoir des chiens de garde, qui sont des chiens patous assez réputés pour mordre volontiers le touriste de passage. Il faut garder les troupeaux toute la nuit, les garder près de soi, et puis on indemnise les pertes. Voilà. Mais cette place du loup, dont vous dites qu'elle pourrait exister, vous l'imaginez en France, dans ce paysage qui est aujourd'hui un peu bousculé, bouleversé par la réapparition de ce prédateur ?
Eh bien, dans les premiers temps, je l'imaginais. Je me disais que les Américains avaient su le faire. Donc que peut-être, si on s'y était pris très tôt, on aurait pu aussi, sur leur exemple, faire la même chose, notamment dans le Queyras, qui est quand même une zone très pastorale. Hein. C'est-à-dire que là, il aurait fallu trouver des systèmes, des méthodes, des techniques hein, pour attraper ces loups, les équiper de GPS, ce qui aurait permis de les suivre sur le terrain, pour ensuite savoir ce que devenaient ces animaux. Alors les Américains ont fait ça, ils ont montré qu'ils avaient une bonne proportion des loups suivis qui disparaissaient dans la nature. Ils ont appelé ça des loups discrets. Donc c'est des loups qui s'intéressaient uniquement à la faune sauvage. Et puis une petite proportion qui s'attaquait aux troupeaux immédiatement. Donc cela, on les a éradiqués, quoi. On les a retirés de la circulation, ou alors on leur a fait mal pour tenter de leur apprendre à avoir peur des productions humaines, quoi. Et ça a marché. Ça a marché. On a pu le montrer avec un collègue parce qu'en fait, on s'est aperçu que le bilan, c'est qu'aux États-Unis, dans ce coin des États-Unis, donc qui est quand même un coin immense avec un élevage relativement important quand même, un peu semblable à l'élevage français, on avait un prélèvement de 3 animaux d'élevage par loup et par an. Et en France, on en est à plus de 20 par loup et par an. Donc on a une différence tellement énorme là qu'on se dit que les Américains, finalement, ils ont peut-être réussi leur coup.
Et alors pourquoi est-ce que vous n'y croyez plus aujourd'hui ?
Alors j'ai du mal à y croire aujourd'hui parce que malheureusement, cette population de loups, elle a pris vraiment de très mauvaises habitudes. C'est-à-dire que les mères élèvent leurs petits en leur apprenant à chasser sur les troupeaux. Ça, les bergers l'ont constaté. Et là, alors, on repart sur des générations de loups qui sont mal habitués, enfin qui sont habitués en tout cas à attraper de la faune domestique. Et malgré les arrêtés préfectoraux qui sont pris chaque année pour tirer des loups, ou en tout cas pas forcément pour les tuer, mais
pour
les effaroucher, on a des résultats qui sont négligeables, quoi. C'est un échec quasiment sur toute la ligne. Alors je parle même pas des prélèvements, puisque en 2013, on avait droit à 24 prélèvements. Il y en a eu 7 officiels de fait, quoi, plus 3 non officiels, mais c'est relativement faible, quoi, hein, par rapport aux possibilités.
Donc, mais alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir, Marc-Vincent ?
Je suis assez pessimiste, finalement. Alors, ça me plaît pas trop, ça, d'être pessimiste, mais je sais pas très bien ce que ça va devenir, d'autant que les loups sont sortis du territoire alpin, qui se dirigent vers le Massif central, vers les Pyrénées, plus au nord jusqu'aux Vosges, la Champagne, donc on approche la région parisienne. C'est pas ça qui m'inquiète, hein, particulièrement. Hein. Je veux dire, peut-être que les forêts parisiennes sont plus aptes à recevoir des loups que les alpages méditerranéens. Mais ces loups ont échappé à la... Malgré le travail assez remarquable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ça je dois le dire, hein. Je pense qu'ils ont échappé maintenant au contrôle, à tout contrôle, quoi. Et malheureusement, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer, mais on a de plus en plus de levées de boucliers de la part des agriculteurs, des éleveurs dans différentes régions. Encore avant-hier, c'était dans la région de Carcassonne. Hein. Et ces gens-là se découragent, quoi, hein. Ou alors ils se fâchent. Donc ça peut assez mal finir.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous incitera à passer d'excellentes vacances en montagne. Nous nous retrouverons à la rentrée, au mois de septembre. En attendant, vous pouvez toujours réécouter et télécharger cette émission sur notre site franceculture.fr, y consulter notre revue de web hebdomadaire. Notre adresse, vous la connaissez, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Pierre Henry, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bon été à tous. Thank you.
Thank you.